Europe 1.
Europe 1.
Pierre Desvilleaux sur Europe 1.
Europe 1, inside the American election.
Europe Matin Weekend.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h.
Nous n'avons pas encore de victoire pour l'instant. Mais les chiffres sont clairs. Nous allons gagner cette course.
Il est quasiment élu, mais préfère attendre avant de revendiquer clairement sa victoire. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle américaine, s'est exprimé la nuit dernière. Alors que les résultats qui continuent de tomber ne laissent plus de place au doute, il est en tête dans tous les états clés.
C'est donc dans un discours important qu'ont écouté les Américains Joe Biden. Outre-Atlantique, on utilise de moins en moins le conditionnel. L'élection est bel et bien en train de basculer. On fera d'ailleurs le point dès le début de ce journal avec notre correspondant permanent, Xavier.
Et puis en France, la violence de la seconde vague de Covid se confirme. On a battu hier un record de contamination. En Auvergne-Rhône-Alpes, les hôpitaux sont saturés.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et direction les États-Unis où les choses se sont encore accélérées pendant la nuit. C'est sans doute le prochain président américain qui s'est adressé à l'Amérique.
Joe Biden avait promis de s'exprimer hier soir. On va retrouver tout de suite notre correspondant Xavier Yvon qui est en direct de New York. Xavier, le candidat démocrate, a fait patienter les Américains mais il a tenu parole. C'est donc un discours important que vous avez vécu.
Oui, le sourire sur le visage de Joe Biden était celui d'un vainqueur. Le ton présidentiel, il y avait de l'excitation dans la salle et en dehors avec des supporters rassemblés autour du Convention Center de Wilmington. Ça avait l'apparence, le goût, l'ambiance, mais ça n'était pas encore le discours de victoire. Ce n'est pas une déclaration finale, a d'ailleurs commencé Joe Biden avec sa colistière Kamala Harris à ses côtés. Mais a-t-il dit, les chiffres sont clairs, nous allons gagner cette élection.
Xavier, c'était pas un grand discours de victoire parce qu'à l'heure actuelle, le résultat n'est pas définitif. On dépouille encore.
Oui, on n'a toujours pas de fumée blanche, ça traîne. Joe Biden en a même plaisanté. On peut se sentir engourdi à regarder les chiffres avancer si lentement à la télé, a-t-il dit. Mais c'est bien les télés américaines qu'on attend. Aucun grand média n'a encore désigné Joe Biden vainqueur. Pourtant, il est en tête partout où l'on compte encore. Pennsylvanie, Géorgie, Arizona, Nevada. Et les experts ne voient pas comment Donald Trump peut rattraper son retard. En Pennsylvanie, notamment, le démocrate est passé devant hier. Et depuis, l'écart ne fait que de se creuser. Il est de près de 28 000 voix en plus au moment où on se parle. Une fois la Pennsylvanie en poche, c'est terminé. Joe Biden dépassera les 270 grands électeurs. Alors pourquoi ça prend autant de temps? Eh bien à la fois parce que les derniers bulletins sont les plus longs à dépouiller. Et puis, il faut le dire, les grands médias américains font preuve d'une extrême prudence, mais on touche au but. D'ailleurs, Joe Biden espère bien revenir faire un discours dans la journée aujourd'hui. Un vrai discours de victoire cette fois.
Xavier, vous restez en ligne avec nous cette nuit. On a entendu un candidat quasiment élu, c'est en tout cas la tonalité qui ressortait de cette prise de parole. Joe Biden a évoqué ses prochains défis et notamment le premier d'entre eux, la lutte contre le coronavirus.
Hier, la sénatrice Harris et moi-même avons rencontré des groupes d'experts de la santé publique et de la crise économique. La pandémie, comme vous le savez, empire dans le pays. Les contaminations journalières explosent. Et dès le premier jour, nous allons mettre en œuvre ce qu'il faut pour contrôler ce virus. On ne peut pas revenir sur les vies perdues, mais on peut en sauver beaucoup, beaucoup dans les mois à venir.
Voilà les mots de Joe Biden. Xavier, justement, le coronavirus a été vraiment l'un des grands sujets de cette campagne.
Ah oui, on peut dire que la pandémie a sûrement coûté sa réélection à Donald Trump. Elle l'a privé de son principal argument puisque l'économie en plein boom s'est effondrée. Sa gestion calamiteuse a été l'angle d'attaque principal de Joe Biden. Donald Trump est aussi tombé malade, on s'en souvient. Et puis s'il y a eu autant de votes par correspondance et donc autant de délais en ce moment dans le dépouillement, c'est aussi à cause de la pandémie. Et puis c'est surtout l'urgence du moment, la pandémie. On a eu une journée record de contamination encore hier aux États-Unis. On approche des 200 000 cas par jour, a dit Joe Biden dans son discours. Et il a expliqué qu'il s'était déjà mis au travail, qu'il avait déjà eu des réunions avec des experts. On sait qu'il veut notamment imposer le port du masque dans tout le pays. C'est un contraste saisissant avec la politique de Donald Trump qui a ignoré le danger, qui n'arrête pas de dire que la pandémie est presque terminée. Et comme un symbole, au moment où Joe Biden parlait du Covid-19, on apprenait que la Maison-Blanche était à nouveau un foyer de contamination. Le directeur de cabinet de Donald Trump et deux de ses collaborateurs ont été testés positifs.
Merci de tous ces derniers développements. Xavier Yvon, correspondant permanent d'Europe 1 à New York. Autre thème de campagne et qui est lié d'ailleurs à cette épidémie de coronavirus, c'est la relance de l'économie américaine. Que prévoit Joe Biden en la matière? Écoutez les explications de l'économiste Nicolas Bouzou.
Je pense que c'est un programme qui est cohérent. Il y a trois axes principaux. Premier axe, augmenter les impôts pour les ménages les plus fortunés. Deuxième axe, augmenter les impôts sur les entreprises et décourager les délocalisations. Et troisième axe, faire de la relance budgétaire, de la croissance par la transition écologique.
Par rapport à Donald Trump, quels sont les principaux changements ?
Il y a quand même la question fiscale et la question écologique qui sont deux différences extrêmement importantes. Mais il y a chez Biden cette idée au fond du produire américain, du made in America, et ça c'est quelque chose qui était très fort chez Trump. Mais au fond aujourd'hui ça correspond à une demande très importante du peuple américain qui, il faut quand même l'avoir en tête, est traumatisé par la montée de la Chine. C'est quelque chose qui pour l'opinion publique américaine est tout à fait surprenant et inacceptable.
Nicolas Bouzou, l'économiste au micro de Roman Hockey. On vous le rappelle donc, hein, Joe Biden qui s'est exprimé la nuit dernière se rapproche de plus en plus de la Maison Blanche, il se rapproche plus que jamais, même si rien n'est encore officiel aux États-Unis, le dépouillement n'est pas terminé.
Oui, 30 000 voix, 28 000 voix d'avance pour Joe Biden en Pennsylvanie, c'est ce que nous disait tout à l'heure Xavier Yvon. Et effectivement, on continue de parler business à l'américaine avec le vice-président exécutif de Microsoft, Jean-Philippe Courtois, mon invité juste après ce journal. 8h06, Marguerite, en France, les effets du reconfinement se feront peut-être sentir dans quelques jours. Aujourd'hui, la situation est toujours aussi compliquée et très préoccupante dans les hôpitaux.
L'épidémie de Covid continue de progresser. 60 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. La deuxième vague est bien là. Elle est violente, disait le ministre de la Santé jeudi dernier. Face à l'afflux de patients, certains hôpitaux sont déjà saturés. C'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, la région la plus touchée en France. Les médecins qui manquent de lits sont obligés d'envoyer leurs patients ailleurs. À Lyon, ces transferts sont quasi quotidiens. Reportage de notre correspondant Jean-Luc Bougeon.
Sur le tarmac de l'aéroport de Lyon-Bron, deux patients en brancard que l'on embarque avec mille précautions dans un petit jet. La scène est devenue banale ici en Auvergne-Rhône-Alpes. 61 transferts ont été réalisés en 15 jours, dont 10 pour la seule journée d'hier des malades de Lyon, Bourg-en-Bresse et Chambéry, acheminés vers les hôpitaux de Poitiers, Saint-Brieuc ou Strasbourg. Une organisation très conséquente, explique Marie Lassaigne, référent des urgences à l'Agence régionale de santé.
Ça mobilise à minima pour remplir un avion au moins 3 professionnels de santé, 2 médecins et un infirmier. L'idée est d'avoir un patient qui soit relativement stable pour supporter le transfert. Ce sont des patients qui sont sous assistance ventilatoire, des patients intubés. Donc effectivement, ce sont des patients qui ont déjà passé quelques jours en réanimation.
Des transferts qui sont une nécessité, selon le docteur Jean-Yves Gral, directeur de l'Agence régionale de santé.
Nous avons besoin tous les jours de 30 à 40 places supplémentaires dans les réanimations de la région. Très vite, en 2 jours, on pourrait être saturé si nous n'avions pas cette dynamique d'anticipation en transférant des patients de réanimation, bien sûr, dans d'autres régions et dans d'autres réanimations.
Des transferts qui vont s'interrompre ce week-end, mais qui reprendront dès lundi avec 12 nouveaux patients qui seront acheminés vers la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et c'est devenu une habitude, hein, les bars, les restaurants, les commerces non essentiels sont fermés. Résultat, on trouve des parades.
Pour lutter notamment contre la concurrence du commerce en ligne, pour permettre aux petits commerçants de survivre, la ville de Dinan, dans les Côtes-d'Armor, a mis en place un service de livraison qui est totalement gratuit. Charles Guyard l'a constaté pour Europe 1.
Allô, j'aurais souhaité vous commander des baskets pour mon petit-fils.
En plein confinement, Agnès gère ses achats à distance. Mais pour cette habitante de Saint-Suliac, pas question de laisser tomber le commerce de proximité.
Comme j'ai WhatsApp, donc à ce moment-là, on se donne un rendez-vous téléphonique.
À 18 km de là, à Dinan, Sophie Lagache, gérante d'une boutique de chaussures. C'est elle qui, avec son téléphone portable, va donc montrer les différents modèles à Agnès. Et pour la pointure, pas de problème.
Donc je leur demande de poser le pied sur une feuille, de mesurer en centimètres. Et moi, je convertis en taille.
Comme les autres commerçants, Sophie déposera les chaussures vendues dans un point relais où un transporteur passera le samedi pour livrer toutes les commandes de la semaine chez les clients. Alors quelle différence au fond avec les plateformes en ligne ?
S'ils commandent sur Amazon, ils n'ont pas de la vente conseil que nous, commerçants de proximité, c'est ce qu'on leur apporte.
Pour ce dispositif, la municipalité a débloqué une enveloppe de 2000 euros. Didier Lechien, le maire de Dinan.
L'idée, c'est d'éviter qu'il y ait trop de déplacements. C'est aussi de sensibiliser les gens à l'importance du commerce de centre-ville. On trouve tout chez son commerçant à côté de chez soi.
Prêt à porter, bijoux, livres, le centre-ville est ici riche de plus de 400 commerces. Jusqu'au 30 novembre, les clients comme Agnès seront donc livrés gratuitement dans un rayon de 20 km. Dinan, Charles Guyard, Europe 1.
Et à Nice, la cérémonie débutera dans 2 heures au sommet de la colline du Château-la-France, rendra hommage aux 3 victimes de l'attentat de la basilique Notre-Dame.
Hommage national en présence du Premier ministre et de l'ancien président Nicolas Sarkozy, dans un contexte très tendu. Il y a eu cette attaque, l'assassinat de Samuel Paty 15 jours plus tôt. Il y a aussi tous ces messages signalés, notamment sur les réseaux sociaux, ces appels à la haine que les gendarmes doivent traiter ces derniers jours. Guillaume Bié.
C'est un message en arabe sur une page Facebook qui a alerté les autorités. L'auteur glorifiait l'assassin de Samuel Paty. Et même si son texte a été supprimé le lendemain, l'internaute a été arrêté par les gendarmes de la section de recherche de Versailles que commande le colonel Andreu.
Nous avons un groupe de cybergendarmes donc qui sont allés assez vite pour identifier la personne. Donc il a été placé en garde à vue et une comparution immédiate a eu lieu et l'individu, au terme de cette comparution immédiate, a été condamné.
6 mois ferme. Mais mandat de dépôt pour ce livreur algérien en situation irrégulière qui devrait être expulsé à sa sortie de prison. Le même jour, un étudiant de 18 ans, inconnu de la police, élève en classe préparatoire à Versailles, a été mis en examen pour apologie du terrorisme et menace de mort. Il avait annoncé vouloir s'en prendre à l'un de ses profs qui a été mis à l'abri. Interpellé dans son lycée, l'étudiant a finalement été laissé libre sous strict contrôle judiciaire alors que le juge d'instruction souhaitait le mettre en détention provisoire.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1. En football, le PSG va tenter ce soir de conserver son avance. Les Parisiens sont toujours premiers de la Ligue 1. Ils affrontent Rennes ce soir à 21h. Autre rencontre, Bordeaux reçoit Montpellier à 17h.
On va terminer ce journal en musique. Retour sur 60 ans de carrière. Avis aux fans de Christophe.
L'artiste qui nous a quittés au printemps dernier sera à l'honneur tout à l'heure. Une vente aux enchères lui est consacrée. Plus de 250 objets qui lui ont appartenu seront mis en vente cet après-midi. Et Diane Chénoudin, il y aura notamment son mythique studio.
Je lui dis
cette vente est une plongée dans l'univers de Christophe. Il y a ses lunettes bleues pour 50 euros, ses blousons de cuir et surtout le clou, c'est son studio de musique estimé à 100 000 euros où Christophe travaillait la nuit. Michel Roudillon, expert de la vente.
Là, on est dans le studio de Christophe. Il y a ses guitares, il y a ses micros, il y a tous ses claviers. C'est un matériel de folie, quoi. C'était vraiment un chercheur musical, Christophe. Et tout ce qu'il pouvait utiliser comme matériel pour chercher des sons, il le faisait.
Avec notamment cette pièce mythique convoitée par les plus grands musiciens, un synthétiseur des années 80.
Effectivement, tous les musiciens qui vous en parlent, ils vous disent que c'est un appareil magique qui propose des sons, une diversité sonore, je pense. C'est surtout ça qu'aucun appareil actuel ne peut vous proposer. Et c'est pour ça que ça en fait un objet mythique. C'est une pièce de collection pour musiciens.
Et puis il y a ces 78 tours que Christophe, passionné de blues, aimait écouter sur ses vieux jukebox des années 40.
Diane Chénoudin, et si cette vente vous intéresse, eh bien sachez qu'elle a lieu sur Internet, confinement oblige. Ce sera cet après-midi chez Cornette de Saint-Cyr à Paris.
Merci, c'est bien noté. Marguerite Lefebvre.